Voilà, alors donc j'ai intitulé l'étude de ce soir « Bible et racisme ». Et directement, la question qu'on va se poser ce soir, parce qu'on pourrait aborder la question sous plusieurs angles, mais la question, vraiment la problématique si on veut, qu'on va se poser ce soir, c'est comment les auteurs bibliques traitent-ils des différences physiques? Des fois, on dit même les différences phénotypiques, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, l'expression des gènes, en fait, voilà, entre les humains et la différence de la couleur de peau en particulier. Alors, c'est surtout sur cette question-là qu'on va étudier l'angle de la question du racisme. Est-ce qu'on trouve dans la Bible des germes de l'idéologie raciste ? Et on va pour cela regarder notamment ce que la Bible dit des Couchites, hein, ce que les écrivains bibliques disent des Couchites. Sont-ils traités de la même façon que les autres groupes ethniques? On verra qui sont les Couchites. Ce sont des personnes qui vivaient en Afrique, en Nubie, et qui étaient noires de peau. Est-ce que les écrivains bibliques traitent ces personnes d'une façon différente? Est-ce qu'ils voient les traits distinctifs des Couchites et la noirceur de leur peau en particulier comme des indications qu'il y a une distinction de nature à faire entre les Couchites et eux-mêmes, les Israélites, hein, qui ont écrit l'Ancien Testament? Pourquoi aborder cette question? Parce que malheureusement, la Bible a été utilisée pour justifier... Alors non seulement l'esclavage, mais aussi justement qu'il y aurait des hommes qui sont inférieurs à d'autres. Et qui donc la Bible a été utilisée par conséquent pour justifier une idéologie raciste. Et plusieurs ont mis en avant ce que je qualifie de mythe, et vous verrez pourquoi, le mythe de la malédiction de Cham, qui a été évoqué pendant des siècles pour justifier l'idée selon laquelle il y aurait une lignée d'êtres humains inférieurs en raison d'une malédiction, une lignée en quelque sorte maudite à cause de la faute originelle de leurs ancêtres. Le christianisme a aussi fait souvent usage du symbolisme de la couleur pour justifier l'infériorité des personnes de couleur, justement, des personnes noires notamment. Et on va voir que ce symbolisme de la couleur est prétendument biblique. Il n'est pas biblique. Et on va le voir tout à l'heure. On trouve des textes chrétiens à partir du Moyen-Âge et même bien avant le Moyen-Âge, chez certains pères de l'Église, où la blancheur est associée à la pureté, à la sainteté, et la noirceur au péché, à la souillure. En fait, ce n'est jamais le cas dans l'Écriture, mais on va le voir après. Et l'écrivain chrétien Jérôme, qui est quand même un grand père de l'Église, qui est connu notamment pour avoir traduit la Bible en latin, la Vulgate, eh bien, il décrit le phénomène de la conversion à la fin du IVe siècle comme ce que je vais vous lire maintenant. « Nous avons été autrefois éthiopiens par nos vices et nos péchés, parce que nos péchés nous avaient rendus noirs. Nous étions comme les Éthiopiens, nous sommes devenus d'une blancheur éclatante. » Des propos qui, évidemment, aujourd'hui, nous choquent énormément, mais qui font partie, quelque part, d'une certaine histoire du christianisme, du coup, de notre histoire. Le péché et le diable ont été affectés de la couleur noire, de façon arbitraire, ce qui a alimenté un certain préjugé aussi à l'encontre des Noirs. Il y a un moine du 5e siècle, John Cassian, qui décrit un ermite tourmenté par un diable déguisé en femme noire, puante et laide. Et dans la biographie de Saint Afra, rédigée entre au 8e siècle à peu près, Satan se montre à ses victimes sous la forme sous la forme d'une personne noire, comme du cirage, je cite les mots de cette biographie. Et en 1022, donc 11e siècle, on brûle des hérétiques à Orléans qui adorent un diable qui leur apparaît sous la forme d'un noir. Donc l'association noir-mâle est bien une composante malgré ce qu'on aurait aimé, du christianisme occidental et d'une certaine manière, du coup, même en tout cas, on va dire, du monde occidental et donc d'une certaine manière aussi du christianisme occidental en tout cas. Et les Noirs ont été victimes de ces associations arbitraires. Et en fait, c'est parce que il y avait du racisme qu'il y a eu aussi ces comparaisons entre le monde mauvais et la noirceur de la peau. La deuxième raison pour laquelle on peut aussi se pencher sur cette question ce soir, c'est que le racisme est encore très présent dans le monde en général, et notamment dans les régions qui, bien sûr, ont été marquées par l'esclavage et le colonialisme. Et alors, je pense aux Antilles françaises en particulier. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste des Antilles. Je pense que Jocelyne pourrait en parler bien mieux que moi. Et puis d'autres Antillais aussi, de l'Église, et Jean-Marc aussi. Mais c'est un endroit, en tout cas en France, puisque les Antilles donc, font partie de la France, où il y a aussi un racisme qui existe encore. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Jean-Luc Bognol, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La couleur comme maléfice », et il dit « Pour ceux qui se rendent à l'heure actuelle aux Antilles, l'idéologie raciale semble appartenir au passé, parce qu'aucune discrimination n'est visible. Mais une observation attentive permet vite de constater une corrélation entre les différences de couleur et les disparités des niveaux sociaux et de se rendre compte, de surcroît, de l'intensité des ressentiments raciaux, ainsi que, de manière générale, d'une hypersensibilité à la question, d'autant plus opérante qu'elle est largement inavouée. » Et en fait, ce constat qui est fait aux Antilles, je ne voudrais pas stigmatiser les Antilles, pourrait être, à mon avis, fait dans beaucoup d'autres endroits aussi. Nos églises évangéliques n'en sont pas exempts. Il y a des églises, même en France, constituées à 95% de personnes de couleur, mais avec un pasteur blanc, par exemple. Il n'est malheureusement pas difficile de trouver des textes aussi provenant de colons qui reflètent les préjugés de couleur. Et il y a un texte, par exemple, de Rousselot de Surgis, au XVIIIe siècle, qui se voulait un esprit éclairé venant d'une culture chrétienne. Il n'était peut-être pas lui personnellement chrétien, mais qui écrit « Tous les voyageurs, à propos des esclaves noirs, tous les voyageurs qui les ont fréquentés, tous les écrivains qui en ont parlé s'accordent à les représenter comme une nation qui a, si l'on peut s'exprimer ainsi, l'âme aussi noire que le corps. Tout sentiment d'honneur et d'humanité est inconnu à ces barbares. Nulles idées, nulle connaissance qui appartiennent à des hommes. S'ils avaient le don de la parole, ils n'auraient de l'homme. S'ils n'avaient pas le don de la parole, ils n'auraient de l'homme que la forme. Ils ont une intelligence qui semble en dessous de celle qu'on a admirée chez l'éléphant. Leur naturel est pervers, toutes leurs inclinations sont vicieuses. On serait tenté de croire, d'après ce portrait, que les nègres forment une race de créatures par laquelle la nature semble monter des orangs-outans, des pongos à l'homme. Vous rendez compte ? Esprit des Lumières, hein ? Esprit des Lumières, fin du 18e. Et on a hérité, cette pensée n'est pas restée au XVIIIe siècle, elle a influencé l'histoire jusqu'à nos jours et on en est encore malheureusement marqué. Et sont réunis dans cette citation tous les clichés qui ont été pendant longtemps véhiculés à propos des personnes noires, la perversion, le sous-développement culturel et intellectuel, et même que les noirs constitueraient le chaînon manquant entre le singe et l'homme. On trouve encore dans d'autres textes, et je ne vais pas en faire toute la liste, aussi que les personnes de couleur noire sont paresseuses ou ne dépassent pas le niveau effectivement intellectuel d'un enfant. Et ces préjugés ont entraîné justement une sorte de focalisation sur les nuances de la peau dans les régions où justement les mélanges entre blanc et noir était inévitable. Et Moreau de Saint-Méry, en 1790, écrit quelque rapproché que puisse être du blanc la femme non blanche, il ne saurait provenir un blanc de leur procréation. Seuls les blancs mêlés entre eux peuvent faire des blancs. Ça voulait dire quoi? Que, eh bien, il y avait une espèce de race un peu pure qui était celle des blancs et qu'on ne pouvait jamais atteindre, même après des générations, à partir d'un moment où il y avait une union entre un blanc et un noir. Et c'était dit pourquoi? C'était dit pour qu'il n'y ait pas de mariage mixte au niveau des couleurs, quoi. Et alors, on trouve toute une espèce de frénésie autour des couleurs. Hein. De l'union d'un blanc et d'une noire résulte le mulâtre, du blanc et du mulâtre le métis, du blanc et du métis le quarteron, et du quarteron le mamelouk, etc. Et puis il y a tout des tas de mots qui ont été inventés pour dire qu'en fait, la descendance ne sera jamais blanche. Et le plus curieux, c'est que tous ces préjugés sur la couleur, eh bien, ont été intériorisés par les peuples noirs eux-mêmes. Ça a entraîné même un sous-racisme entre les gens de couleur entre eux, selon justement si la peau était plus ou moins blanche. Et on retrouve donc dans la population noire la même gradation, la même cascade de nuances. Et la même focalisation sur la couleur. Alors il y a le noir charbon, le noir bleu, le noir foncé, le noir clair, le noir rouge, le brun clair, l'acajou, le basané, le sapotis, le pistache, le cannelle, le chocolat, le café au lait, la banane mûre, le jaune de Giraumont, le jaune abricot, le jaune, etc. Toute une cascade. Et ça entraînait un sous-racisme entre les personnes aussi, des fois de couleur entre elles. Dans les années 1950, donc là on est un peu plus récent, le psychiatre martiniquais Frantz Fanon pouvait écrire à propos des choix amoureux aux Antilles. Il s'agit de ne pas sombrer de nouveau dans la négraille, et toute Antillaise s'efforcera dans ses flirts ou dans ses liaisons de choisir le moins noir. Et donc les jeunes Antillaises des années 50 avaient comme objectif, en quelque sorte, de blanchir la descendance. Alors, on va interroger justement le texte biblique par rapport à tout ça, par rapport à cette obsession qu'il y a eu et tous ces textes qui ont été écrits avec une idéologie raciste et qui contenaient aussi la notion de couleur de peau. On va voir que la Bible est tout à fait détendue par rapport à ça et même positive par rapport à la couleur de peau. Il y a eu en fait subversion, on pourrait dire, du message biblique. Et c'est ce que je souhaite qu'on voit ensemble. Alors tout d'abord, si on prend la Genèse, dans la Genèse, il y a une seule race humaine, parce qu'il y a un seul descendant, bibliquement, Adam. Adam et Ève, desquels toute l'humanité vient. Donc il y a déjà une seule race humaine. Même avant qu'on ait les connaissances génétiques qu'on a aujourd'hui, la Bible disait qu'on avait déjà un ancêtre commun. La Genèse précise que Dieu a créé les animaux selon leur espèce, mais à aucun moment il y a cette formule aussi pour l'homme. L'homme est d'ailleurs le seul qui n'a pas été créé selon son espèce. Il n'y a qu'une seule race, celle d'Adam. Aucun mythe non plus quant à la différence des couleurs de peau dans l'écriture. Vous savez que dans certaines cultures, on dit que chez de nombreux peuples, en Guyane par exemple, à Madagascar aussi, il y a des contes qui rapportent que l'idée des Noirs devrait la couleur de leur peau à un moment d'étourderie de Dieu. Hein, ils étaient dans le four de Dieu. Et il les a oubliés, ce qui expliquerait leur cuisson. Hein. Et de tels contes alors, sont des fois même racontés par des personnes de couleur sous forme d'autodérision, mais ce n'est pas sans conséquence sur la perception que les Noirs ont eu d'eux-mêmes ce genre de contes. Évidemment, dans la Bible, on ne trouve rien de ce genre-là. L'épisode qu'on appelle à tort la malédiction de Cham, mais on verra ça dans un instant, a marqué aussi les esprits. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la malédiction de Cham? Je vais rappeler brièvement de quoi il est question. On ne va pas prendre le texte biblique forcément sur ce texte-là. C'était après l'épisode du déluge. Hein. Le patriarche Noé était en état d'ivresse. Il se dénude et son fils Cham découvre sa nudité. Ayant été informé donc le lendemain de la conduite de son fils, Noé prononce les mots fatals et il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. » Alors déjà plusieurs remarques à propos de ce texte. Déjà, la malédiction n'a pas été proférée à l'encontre de Cham. Déjà, alors que des fois on parle de la malédiction de Cham, mais Cham n'a pas été maudit. C'est Canaan, dans ce texte, c'est un des fils de Cham qui a été maudit. Donc il faudrait, à proprement parler, dire la malédiction de Canaan. Cham avait trois autres fils. La malédiction est portée sur Canaan, l'ancêtre des Cananéens de Palestine, et non sur Cush, justement, et Put, qui sont plutôt les ancêtres des nations africaines noires. Il n'est pas aisé de comprendre d'ailleurs pourquoi Noé maudit Canaan, un des fils de Cham, alors que c'est Cham qui a commis une faute dans ce texte. Certains rabbins ont soutenu que Noé ne pouvait pas maudire Cham parce que Dieu avait béni Noé et ses fils, dont Cham, et donc la malédiction ne pouvait pas se substituer à la bénédiction de Dieu. Et donc il aurait fait retomber la malédiction sur l'un des fils de Cham. Pas évident d'interpréter ce texte aussi. Peut-être on doit voir dans ce texte une prophétie de la conquête du pays de Canaan par les Israélites lors des campagnes de Josué. Et puis certains, avec une exégèse un peu plus audacieuse, et en pensant peut-être que la Genèse a été rédigée aussi après ou même au temps de Josué, y voient comme un espèce d'écho rétroactif dans la Genèse des victoires et des conquêtes militaires de Josué en terre de Canaan, justement. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que, déjà, l'intention d'un tel texte, il a plutôt à voir avec la victoire des Israélites en Canaan qu'une question raciale. C'est la justification de la conquête du pays de Canaan par les Hébreux à leur sortie d'Égypte. Et à chaque fois d'ailleurs aussi que le mot Cham est utilisé ailleurs dans l'écriture, en dehors du récit de la Genèse et de la généalogie aussi des chroniques, le mot Cham va servir d'équivalent poétique à l'Égypte, hein, les tentes de Cham par exemple dans Psaume 78 ou le pays de Cham. Et c'est plutôt l'Égypte qui semble être une incarnation de Cham dans la suite de l'histoire et non pas justement l'Afrique qu'on pourrait appeler l'Afrique noire. En fait, il s'agit plus d'un mythe, hein, quand on veut avancer ça, que vraiment d'une solide exégèse biblique de ce texte, hein, la malédiction de Cham, qui est en plus la malédiction de Canaan. Dans certains textes du Talmud, c'est vrai qu'il y a eu des interprétations racistes de ce texte. Rabbi Iya a affirmé que Cham, par exemple, et le chien ont chacun copulé dans l'arche, alors que selon l'ordre de Dieu, toutes les créatures devaient s'en abstenir. La conséquence d'une telle désobéissance a été terrible. Cham est devenu tout noir et le chien ne cesse de copuler au vu de tous. Ça, c'est l'interprétation d'un rabbin, Rabbi Iya, et évidemment cette explication ne se trouve pas dans le texte biblique, elle est pure invention et elle vient soutenir justement une idéologie qui est raciste. Il s'agit des traditions d'ailleurs orales juives qui ont été mises par écrit aux environs du 5e siècle après Jésus-Christ. Alors oui, à partir du Moyen-Âge, l'esclavage a malheureusement, comme on l'a dit, été justifié théologiquement et même comme une façon d'expier la malédiction de Cham, entre guillemets, et comme une possibilité, il fallait quand même être gonflé pour le faire, de salut pour les Noirs. L'esclavage devenait le moyen, du coup, choisi par Dieu pour se révéler aux Africains et leur faire abandonner leur idolâtrie. Vous voyez jusqu'où on a pu aller par pure invention, sur la base d'un texte biblique dont une exégèse, j'ai envie de dire, même pas si sérieuse que ça, nous montre tout de suite que, évidemment, il n'était même pas question de race et encore moins de racisme dans ce texte. Alors le symbolisme de la couleur aussi, maintenant dans la Bible. Le noir, c'est vrai, désigne dans de nombreuses religions l'impureté, tandis que le blanc va symboliser la pureté, la sainteté. C'est vrai notamment dans la pensée des Grecs. Mais qu'en est-il de la Bible ? Alors on ne peut pas contester dans la Bible que le blanc est parfois évoqué pour désigner le sacré, et que le blanc est rapproché dans certains textes de la sainteté et de la pureté, mais plusieurs remarques déjà qu'on peut faire. Dans la Bible, le symbole de la pureté, ce n'est pas simplement le blanc, c'est le blanc éclatant, comme la neige ou comme la laine. Et ça n'a rien à voir avec la pigmentation de la peau, je ne suis pas blanc. Voilà. La qualification d'ailleurs que je crois que c'est les Indiens d'Amérique, peut-être, qui ont appelé les cow-boys, hein, les visages pâles, convient beaucoup mieux. On est plutôt des visages pâles quand on est blanc de type caucasien que blanc, littéralement blanc, comme la neige, non, certainement pas. Ça, c'était une première remarque. Et ensuite, le contraire du blanc comme symbole de la pureté n'est pas le noir dans la Bible. C'est plutôt le rouge vif, le rouge foncé. On a un texte qui nous le dit, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 1, verset 18, « Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, pas comme le noir, seraient comme l'écarlate, ils deviendraient blancs comme la neige. Quand ils seraient rouges comme le cramoisi, ils deviendraient comme la laine. » Vous voyez ? Alors après, on n'a pas d'autres textes qui montrent, mais là, on a clairement un texte biblique qui montre que l'opposition entre le bien et le mal, si on veut dire les choses comme ça, c'est entre le blanc et le rouge. Alors c'est pas pour faire naître un autre racisme à l'égard des rouges, d'ailleurs personne n'est vraiment rouge. Hein. Des fois on dit rouge, rouge, rouge sont les Indiens, mais bon, ils sont pas rouges. Hein. Comme nous, on n'est pas blanc et voilà.
Peut-être c'est à cause de la peinture qui m'était.
Et donc l'opposition dans la Bible se fait plutôt ne se fait pas entre le blanc et le noir, mais plutôt entre la lumière et les ténèbres, et c'est différent. L'Écriture ne va jamais célébrer la blancheur de Dieu, mais sa lumière éclatante. On cite des fois aussi le Cantique des Cantiques, et on va voir justement ce que ça veut dire. Parce que Cantique des Cantiques 1, versets 5 et 6, nous dit « Je suis noir, mais je suis belle. » C'est des paroles dans la bouche de la Sulamite. Hein, pour certains ont utilisé ce verset pour affirmer que le noir est donc symbole de laideur dans l'Écriture, puisque « Je suis noir, mais je suis belle », puisqu'on a ce petit mot « mais ». Alors déjà, le mot « mais », c'est tout à fait contestable. Hein. Mais en plus, un tel texte n'est pas pertinent, puisque « noir » dans ce texte signifie simplement « bronzé ». Comme l'écrit le bibliste Paul Jouillon, qui est spécialiste de l'hébreu, il dit « il ne s'agit pas évidemment de la couleur des noirs, mais de la couleur brune causée par le hâle », c'est-à-dire le bronzage en quelque sorte. La peau de la bergère du Cantique est brûlée par le soleil, contrairement à celle des filles riches de Jérusalem qui étaient épargnées du travail, des champs et donc du soleil. À l'époque de la rédaction du Cantique des Cantiques, une peau blanche était le signe donc d'une condition sociale élevée. On n'avait pas besoin de sortir dehors, en fait, donc on ne bronzait pas, donc on restait plus clair de peau. Et posséder donc une peau blanche, ça voulait dire j'appartiens à l'aristocratie, je ne suis pas obligé de travailler. Et comme dans beaucoup de sociétés, c'est souvent l'aristocratie qui fixe les canons de la beauté. Les canons de la beauté qui d'ailleurs varient beaucoup d'une culture à une autre. Certaines cultures, on apprécie d'autres choses, d'autres traits physiques que dans une autre. Donc, déjà, on peut aussi enlever ce texte comme appui éventuel d'une idéologie raciste qui mettrait en parallèle la peau noire et la laideur. C'est absolument pas, ça tient pas debout. Et maintenant, la partie la plus importante, comment les écrivains bibliques, qui étaient des Israélites, ont considéré les Cushites dans leurs écrits. Alors, le pays de Cush, K-O-U-S-H, représente une région qui est située au sud de l'Égypte. Et vers 2000 avant Jésus-Christ, c'est le nom d'une province qui est située entre les 2e et 3e cataractes du Nil. Rien à voir, Marie-Joseph, et je l'ai vu arriver, rien à voir avec la maladie des yeux. Hein. Quand j'ai trouvé ce mot-là dans un commentaire, entre la 2e et la 3e cataracte, je me suis dit, c'est quoi une cataracte? Et en fait, ouais, c'est pas tout à fait une chute, mais c'est plutôt des rapides. Donc des endroits où le Nil est un petit peu plus rapide parce qu'il y a une accumulation de rochers, donc ça fait un peu des rapides. C'est pas tout à fait comme une chute. Et entre la 2e et 3e cataracte, qui se trouve bien au sud, parce que la première cataracte est légèrement au sud d'Assouan, et puis après il y a la 2e, la 3e, entre ces 2 et 3e, c'est à peu près cette région-là qu'on appelait Cush en 2000 avant Jésus-Christ. Cush est ensuite devenu un terme général qui est utilisé par les Égyptiens pour désigner la Nubie, donc on va un tout petit peu plus encore au nord, mais en gros on reste, c'est la même région. Et c'est dans ce sens que l'on reprit les Hébreux. Et cette région correspond de nos jours au Soudan. Elle correspond plutôt au Soudan, au Darfour aussi, hein, dont on a entendu parler à cause des problèmes il y a encore quelques années. Chez certains auteurs classiques de culture grecque, Cush va correspondre à l'Éthiopie. L'Éthiopie, mais alors pas l'Éthiopie moderne actuelle qui se situe plus à l'est du pays de Cush, mais l'Éthiopie dans un sens très large pour désigner en fait une surface géographique un peu plus large, mais pas l'Éthiopie moderne. Les Grecs désignaient par exemple tous les Noirs du terme générique d'Éthiopien. Et ça signifie d'ailleurs en grec, hein, le mot éthiopien signifie étymologiquement face brûlée. C'est pas l'étymologie de ces peuples-là, hein, c'est une étymologie grecque. Pourquoi ? Parce qu'il y a une légende grecque qui dit que le char d'Hélios, donc le dieu du soleil, qui était un jour conduit par son fils, je ne sais pas trop pourquoi, je n'ai pas cherché les détails de l'histoire, eh bien son fils s'est rapproché un peu trop près de la terre, et donc tous les habitants de cette région ont brûlé, ont eu la face brûlée, et c'est comme ça qu'ils expliquaient aussi que la Libye était un désert, voilà, à cause du fils d'Hélios, quoi, qui a pris le char de son père et s'est approché trop près de la terre. Peut-être de là que vient aussi le mot éthiopien, effectivement, hein, Éthiops, éthiopien littéralement face brûlée. Donc les Cushites sont connus, sont un peuple connu dans l'épigraphie égyptienne, l'épigraphie aussi assyrienne, on trouve des textes qui les mentionnent, bien sûr dans la Bible, hein, comme un peuple aussi qui a la peau noire. C'est un de leurs traits physiques distinctifs. On peut admirer au musée égyptien du Caire un combat entre le pharaon Toutankhamon et les Cushites. Et les Cushites sont représentés sur cette peinture qui est sur un coffre. C'est parmi les plus anciennes peintures, évidemment, qu'on a dans l'histoire de l'humanité. Bon, sauf si on prend les grottes de Lascaux et qu'on dit que c'est des peintures, mais voilà, entre Toutankhamon et les Cushites qui sont représentés donc avec la peau noire. Il y a une scène aussi de la porte du palais de Ramsès III, 1200 avant Jésus-Christ, l'époque de Moïse à peu près, hein, un petit peu après. Dépeint donc des individus de 4 nationalités, on peut les reconnaître. Il y a un Syrien, un Libyen, un Hittite et un Cushite qui possèdent les traits physiques caractéristiques de ce qu'on appellerait aujourd'hui les Noirs. Quelques éléments de l'histoire des Cushites. Alors le pays des Cushites était réputé pour les mines d'or qu'il abritait. Ce n'était pas un peuple déjà qui était pauvre, sous-développé. Il possède dans son territoire des mines d'or. Et déjà durant les 9e et 10e dynasties égyptiennes, donc là on est en 2000 à peu près avant Jésus-Christ, les Égyptiens menaient des campagnes militaires dans ce pays de Kouch pour s'emparer des richesses. Les Kouchites avaient la réputation d'être de grands guerriers et notamment de très habiles archers. Ils maniaient bien l'arc et donc on les retrouvait souvent comme mercenaires dans les armées égyptiennes et plus tard même dans l'armée israélite. On verra un texte au moins qui le mentionne. Et dans en fait les armées de tous les voisins de l'Égypte et d'Israël. On recrutait donc d'habiles guerriers dans cette région. À la fin donc de ce qu'on appelle le Moyen Empire, 1800 avant Jésus-Christ, le pays de Kouch était sous contrôle égyptien, mais cette colonisation, entre guillemets, qu'on pourrait dire, de l'Égypte sur cette région du monde a été plusieurs fois défiée. Et souvent, l'Égypte était vainqueur, sauf un peu plus tard dans l'histoire, où il y a eu carrément des personnes de cette région, donc des Kouchites, qui sont devenus pharaons. Et vous avez peut-être entendu parler des pharaons noirs. Il y en a 5. Et c'est, alors en quelle année ?
744 à 656.
Voilà, exactement. Moi j'ai 747, le roi Kouchite Pi qui a conduit une invasion en Égypte et établi la 25e dynastie de gouverneurs de l'Égypte et s'en est suivi 5 pharaons noirs jusqu'en 656 avant Jésus-Christ. Et c'était donc des Kouchites qui, à ce moment-là de l'histoire, étaient à la tête d'un des peuples les plus importants sur la scène du monde connue de cette époque. Donc un grand peuple militaire qui entretenait des relations politiques, commerciales avec de nombreux peuples. C'est donc pas étonnant que ce peuple soit mentionné dans la Bible et il y a près de 50 occurrences du mot dans la Bible que pour désigner soit le pays de Kouch, soit le peuple, les Kouchites. Ils apparaissent dans différents livres, dans la Genèse, dans Nombre, 2 Samuel, 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, Esther, Job, les psaumes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Amos, Nahum, Sophonie. Alors bien sûr, on ne va pas prendre toutes les références, mais on va s'arrêter sur les textes les plus significatifs par rapport à la question du racisme. Le premier qu'on va lire maintenant, Nombre 12, versets 1 à 10. Alors, Nombre 12, versets 1 à 10. On fait la lecture dans la Bible, second 21. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme couchite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Vous trois, allez à la tente de la rencontre. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. » Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse ? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla, et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre, elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre, etc. Et ça continue un peu. Si je prends dans ce texte juste quelques versets que je sélectionne, c'est Myriam et Aaron parlent contre Moïse au sujet de la couchite qu'il avait prise comme femme. Et le texte dit, effectivement, il avait pris une couchite comme femme. Le Seigneur ensuite se met en colère contre Myriam qui est couverte de lèpre et elle était blanche comme la neige. Alors Moïse a pris pour femme une couchite. La grande majorité des commentateurs s'accordent sur le fait qu'il s'agit bien de ce peuple de Kouch, donc au sud de l'Égypte. Certains considèrent que la femme couchite de Moïse dont il est question dans ce texte ne serait pas issue de ce peuple, mais que ce serait un mot pour désigner plutôt une Madianite, puisque Moïse était chez Jéthro pendant un certain temps, et donc il avait épousé notamment Séphora. Et donc les Madianites étaient plutôt de type arabe. Et ils utilisent comme argument principal Habacuc 3, verset 7, que vous connaissez tous par cœur, dans lequel le terme de Kushan est utilisé en parallèle avec Madian, Madian, Kushan, voilà. Et en fait, il conclut de ce rapprochement qu'il y avait peut-être un groupe en Arabie connu sous le nom de Kushite, et qui est donc, ou alors qui était étroitement lié aux Madianites. Et donc la femme en nombre 12 serait une Madianite que Moïse aurait épousée, en plus de Séphora, à moins que ce ne soit Séphora elle-même, la fille de Jéthro, qui était prêtre de Madian. Mais en réalité, ben déjà, cette interprétation ne s'impose pas du tout. En Habacuc 3.7, il n'est pas question de couche, littéralement, mais de couchan. Donc il y a une syllabe en plus, quoi. Il y a une lettre en plus, hein, le N. Hein. Et il n'est pas du tout établi que couchan et couche soient la même aire géographique. Et en plus, ce mot-là, c'est assez énigmatique, en fait. On le trouve qu'une seule fois dans la Bible, dans ce texte-là. Donc c'est un petit peu hasardeux d'en dire quelque chose. Alors qu'à chaque fois qu'on a le mot couche, ça désigne toujours cette région au sud de l'Égypte, dans toute la Bible. La Septante, qui a traduit le mot couchite, donc en nombre 12, verset 1, vous savez, quand la traduction a été faite en grec de l'Ancien Testament, quand ils sont tombés sur ce mot, comment ils ont traduit? Eh bien, ils ont traduit justement par Éthiopissa, c'est la forme féminine de Éthiops, donc éthiopien, éthiopienne. On sait aussi qu'effectivement, il y avait beaucoup de Couchite en Égypte. Moïse a grandi en Égypte, il a pu connaître une Couchite et prendre une Couchite pour femme, parce que aussi quand Israël a quitté l'Égypte, il y a un certain nombre d'autres personnes qui sont allées avec eux, qui n'étaient pas des Israélites. Hein. On a un verset qui le dit clairement, et toute une foule d'autres nations ont aussi quitté l'Égypte avec Israël. Exode 12, verset 38. Et donc, très probablement, il y avait des couchites et Moïse a pris une femme couchite. Alors pourquoi Myriam et Aaron se plaignent-ils? Le texte biblique ne dit pas, il dit qu'ils se plaignent à propos de la femme couchite que Moïse avait prise. Et après ils disent, oui, Moïse a bien pris une femme couchite. Pourquoi ils se plaignent? Il semble bien que ce soit à cause du fait que ce soit une femme étrangère. Étrangère et noire. On peut le supposer. Le texte ne dit pas clairement que Myriam et Aaron font preuve de racisme, mais si c'était le cas, ils feraient preuve de racisme. Si c'est parce que la femme de Moïse est étrangère et noire qu'ils se plaignent, alors ils seraient racistes. Si on admet qu'il y a peut-être cette idée, un sentiment raciste qui les anime, alors déjà on peut remarquer que non seulement Dieu ne désapprouve pas ce mariage, il approuve ce mariage, c'est quand même intéressant. Il dit même d'ailleurs qu'il y a beaucoup de compliments qui sont faits sur Moïse dans ce texte. Hein. Il voit Dieu face à face, Dieu parle directement avec lui, il approuve, Dieu approuve ce qu'il fait. C'est aussi dans ce texte où il est question que Moïse est l'homme le plus humble du monde, etc. Alors si on accepte qu'il y a peut-être eu quelque chose de raciste dans l'attitude de Myriam et d'Aaron, eh bien alors Dieu déjà ne désapprouve pas le mariage de Moïse, mais en plus il ferait preuve d'un certain humour un peu mordant, puisqu'il frappe, la punition est de frapper Myriam de lèpre blanche. Hein, elle était blanche comme la neige. Alors tu te moques peut-être de quelqu'un ou tu te plains de quelqu'un qui n'a pas la même couleur que toi, et bien tu vas être rendu blanc. Si on accepte cette interprétation, alors ce texte est comme un texte important pour combattre le racisme, avec une subtile note d'humour de Dieu. Deuxième texte où les couchites sont mentionnés, 2 Samuel 18, versets 19 à 33. Alors, on était dans la vie de David l'année dernière, on n'a pas pris ce texte, mais il fait effectivement partie de ces textes. Donc, 2 Samuel 18, versets 19 à 33. Ahimaatz, fils de Tsadok, dit à Joab. Alors, oui, c'est pas après la mort d'Absalom. Hein. Laisse-moi courir et apporter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de ses ennemis. Joab lui dit : Tu ne serais pas un messager de bonne nouvelle aujourd'hui. Tu pourras l'être un autre jour, mais pas aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. Puis Joab dit à un Éthiopien, littéralement un Couchite, « Va rapporter au roi ce que tu as vu. » L'Éthiopien, le Couchite, se prosterna devant Joab et partit en courant. Ahimaatz, fils de Tsadok, insista auprès de Joab, « Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après le Couchite. » Joab dit, « Pourquoi veux-tu faire cela, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. »« Quoi qu'il arrive, je veux courir, » reprit Ahimaatz. Joab lui dit alors, « Cours. » Ahimaatz courut en empruntant le chemin de la plaine et il dépassa le Couchite. David était alors assis entre les deux portes de la ville. La sentinelle marchait sur le toit au-dessus de la porte, sur la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Un homme courait tout seul. La sentinelle cria pour l'annoncer au roi. Le roi dit « S'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. » Cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme courir. Elle cria au portier « Voici un homme qui court tout seul. » Le roi dit « Il apporte aussi de bonnes nouvelles. » La sentinelle dit « La manière de courir du premier me paraît être celle d'Ahimaatz, le fils de Tsadok. » Le roi dit alors « C'est un homme de bien. Il vient apporter de bonnes nouvelles. » Ahimaatz cria au roi « Tout va bien. » Il se prosterna devant le roi, le visage contre terre, et dit « Béni soit l'Éternel, ton Dieu. Il a livré en ton pouvoir les hommes qui levaient la main contre mon seigneur le roi. » Le roi lui demanda « Le jeune Absalom va-t-il bien ?» Ahimaatz répondit « J'ai aperçu une grande agitation au moment où Joab a envoyé le serviteur du roi et moi ton serviteur, mais je ne sais pas ce que c'était. » Et le roi dit « Mets-toi là de côté. » Ahimaatz recula et se tint debout. Alors arriva le Couchite. Il dit « Que le roi, mon seigneur, apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de tous ceux qui s'attaquaient à toi. » Le roi demanda au Couchite « Le jeune Absalom va-t-il bien ?» Il répondit « Qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis de mon seigneur le roi et tous ceux qui se dressent contre toi pour te faire du mal. » Et alors le roi bouleversé monta dans la chambre située au-dessus de la porte et pleura. Il disait tout en marchant « mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. » Pas évident d'interpréter un tel texte. Donc Absalom, le fils du roi David, est mort au combat. Et il faut annoncer la nouvelle donc à son père. Le chef de l'armée, Joab, choisit, lui, un Couchite, un mercenaire qui combattait donc dans l'armée de David pour porter cette nouvelle qui n'est pas une bonne nouvelle en réalité. Après, il dit que c'est une bonne nouvelle parce que ben, devant le roi, ils n'ont pas osé en fait dire qu'Absalom était mort quand le roi les questionnait. Mais donc Joab choisit un Couchite pour annoncer une mauvaise nouvelle au roi. Et ça a fait dire à certains que justement il fallait être noir pour annoncer de mauvaises nouvelles, qu'il y aurait eu du racisme de la part de Joab. Mais en fait, on peut penser complètement autrement. On peut penser aussi que Joab avait confiance en cet homme et tout le poids psychologique de la nouvelle qu'il devait apporter. Et donc, il lui faisait confiance. Mais vous voyez aussi que Ahimaatz insiste. Il veut lui annoncer la nouvelle. Et à un moment donné, il lui dit « Ah, mais c'est pas une bonne nouvelle. Alors, ne va pas l'annoncer, etc. » Bon. Joab essaye d'épargner, en fait, à Ahimaatz cette charge. Certains ont interprété que Joab avait donc des sentiments racistes, hein, en prétendant qu'il associait la couleur de la peau du Cushite à la mauvaise nouvelle dont il était porteur. Alors, quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, même si Joab avait été raciste, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme Joab. Hein, je veux dire, on a de toutes sortes de personnes qui sont mentionnées dans les récits bibliques qui ne sont absolument pas des exemples à suivre. Il y a même des textes où c'est fait exprès que certaines personnes soient mentionnées pour qu'on, comme des contre-exemples, des personnes à ne pas suivre. Donc, je ne vois pas du tout, même si on pourrait éventuellement admettre ce que le texte ne dit pas, mais que Joab était raciste, ça ne soutiendrait pas qu'il a eu raison. Donc là, encore une fois, ce texte, on peut le mettre de côté. Il ne contient aucun fondement d'une idéologie raciste. Ésaïe 18, c'est un des rares passages de l'Écriture où on évoque les traits physiques, et notamment les Cushites, qui sont présentés comme une nation élancée et luisante. Et si on lit un peu tout le passage, hein, on va lire quelques versets. Ésaïe 18... 1, 2, 3, on va voir où on s'arrête. Hein. Ésaïe 18. Alors, malheur à toi, pays des grillons ailés, situé de l'autre côté des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies des messagers par mer dans des embarcations légères qui flottent sur l'eau. Allez donc, messager rapide, trouver la grande nation et glabre, le peuple redouté bien au-delà de ses frontières, la nation puissante qui écrase tout et dont le territoire est traversé par des fleuves, etc. etc. Nation élancée, luisante, selon dans d'autres traductions. Le texte donc, traite donc des Cushites, des Nubiens, de façon plutôt positive et avec beaucoup de respect. Et on leur reconnaît un aspect majestueux et une réelle beauté physique. Et après, on dit qu'ils piétinent leurs ennemis, et ça, c'est une référence au fait qu'ils étaient réputés comme de redoutables guerriers. Et au moment où écrit Ésaïe, effectivement, Cush est effectivement une grande puissance militaire. Si bien que les prophètes donc, vont avertir le peuple d'Israël de ne pas mettre sa confiance dans les Cushites, il y a des textes qui le mentionnent précisément, comme ils l'ont fait pour les autres puissances militaires. On peut par exemple lire dans Ésaïe 20, verset 5, alors on sera dans la terreur et la honte à cause de l'Éthiopie, en qui l'on avait placé sa confiance, et de l'Égypte dont on vantait la splendeur. Et puis un autre texte dit un petit peu la même chose dans le prophète Ézéchiel au chapitre 30. Et je vous lis juste quelques versets, versets 4 à 9 dans Ézéchiel 30. L'épée fondra sur l'Égypte et l'affolement s'emparera de l'Éthiopie quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses et que ses fondations seront détruites. L'Éthiopie, donc Cush littéralement, hein, Put, Loud, tout peuple mélangé, Koub et les membres du pays de l'Alliance tomberont par l'épée avec eux. Voici ce que dit l'Éternel, ils tomberont, les soutiens de l'Égypte, et l'orgueil qu'elle tirait de sa force s'éteindra. De Migdol à Sienne, ils tomberont par l'épée, déclare le Seigneur l'Éternel. Ils seront dévastés au milieu des pays dévastés, et ces villes seront comptées parmi les villes en ruine. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand je mettrai le feu à l'Égypte et que tous ses alliés seront brisés. Ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des bateaux pour effrayer l'Éthiopie, malgré son sentiment de sécurité. L'affolement s'emparera d'eux lorsque le jour de l'Égypte sera venu, et le voici qui arrive. Donc attention à ne pas mettre sa confiance non plus dans les nations étrangères. Elles aussi seront jugées et tomberont aussi. Un autre texte, pas évident non plus, c'est là qu'on se rend compte que dans notre Bible, on a quand même plein de textes. Le sens, des fois ça va à peu près, mais alors l'interprétation, c'est vraiment pas évident. Le texte d'Amos 9, verset 7, on a accusé le prophète Amos d'être de propos racistes. Je vous lis ça, Amos 9, verset 7. « N'êtes-vous pas pour moi comme des Éthiopiens israélites, déclare l'Éternel ? N'ai-je pas fait sortir Israël d'Égypte, comme j'ai fait sortir les Philistins de Caphtor et les Syriens ?» de Kir. Alors c'est le prophète Amos qui interpelle le peuple au nom de Dieu, et c'est des paroles qui sont mises dans la bouche de Dieu. N'ai-je pas fait sortir Israël d'Égypte comme les Philistiens de Caphtor, les Araméens de Kir? Et juste avant, n'êtes-vous pas pour moi comme les Cushites israélites? Alors Amos annonce une destruction, la destruction imminente du peuple à cause de sa transgression de l'Alliance et de la pratique du mal et de l'injustice. Et à ce moment-là, Israël est comparé à Couche. Et cette comparaison apparaît effectivement dans un contexte de jugement. Et donc certains commentateurs en concluent que le prophète avait une vision négative des Couchites et qu'il veut humilier son peuple, et pour humilier le peuple, il le rabaisse, certains disent ça, il le rabaisse au niveau des Couchites. André Néer, par exemple, considère que les Couchites seraient l'exemple d'un peuple resté au niveau naturel, un peuple qui n'est pas entré dans l'histoire à l'inverse d'Israël, d'Aram et des Philistins. Un autre commentateur, Desnoyers, estime quant à lui que les fils d'Israël, devenus infidèles aux clauses de l'Alliance, sont rabaissés au rang des Couchites qui étaient dédaignés par le monde sémitique d'alors. Mais en fait, ce genre d'explication suppose que les Couchites étaient un peuple méprisé dans le Proche-Orient ancien, alors qu'en réalité, c'était un peuple respecté dans le Proche-Orient ancien, de tout ce qu'on sait de leur histoire et même des mentions bibliques qu'on a fait jusqu'à présent. Aucun texte ne contient quelque chose de négatif dans la Bible à leur propos. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand ces commentateurs disent ça? C'est qu'ils ont des préjugés et ils les font rentrer dans le texte plutôt que de lire le texte et de penser à partir des données du texte. L'exégèse, c'est ça, ex-égèse, on veut retirer quelque chose du texte et on ne veut pas y mettre quelque chose dedans. Et ils projettent, ces commentateurs, dans le texte biblique des éléments qui ne s'y trouvent pas. Comparer Israël à un peuple noir ne peut être un dénigrement d'Israël que si on considère que les Noirs sont méprisables ou voire inférieurs. Sinon, c'est simplement une comparaison. voyez ce que je veux dire. Mais si on a un préjugé, alors on pourrait dire on rabaisse Israël. Mais dire rabaisser, ça veut déjà dire, quelque part, avoir des préjugés. L'interprétation donc, selon laquelle il s'agirait d'un jugement négatif porté à l'encontre des Couchites ne s'impose absolument pas. Il y a au moins deux autres lectures de ce texte qui sont possibles. Soit on va considérer que les Couchites sont mentionnés comme représentants de peuples éloignés, étrangers, qui ne connaissaient pas l'Alliance. Et alors Dieu dit, vous les Israélites, vous n'avez pas respecté mon Alliance, vous êtes comme ce peuple-là qui est assez loin de vous, et qui ne connaît pas l'Alliance. Vous aviez fait comme si vous ne la connaissiez pas, cette Alliance. C'était un peuple qui vivait à la périphérie du monde connu de l'époque, pour les Israélites. Et on peut aussi voir, deuxième interprétation possible, on peut voir aussi en Couche le symbole de toutes les nations du monde, qui un jour, on le sait, et par Jésus-Christ, recevront une attention égale de la part de Dieu. Il n'y a plus ni juif ni grec, dans le Nouveau Testament, dira Paul. Émile Nicole fait remarquer que s'il y avait un jugement dépréciatif à l'arrière-plan de la mention des Couchites, cela rendrait d'autant plus cinglante la remarque d'Amos. Donc il dit, quelque part, il dit qu'on ne peut pas complètement écarter qu'il y ait eu peut-être une idée péjorative des Couchites. Mais le fait d'utiliser les préjugés de ses auditeurs pour mieux les atteindre dans leur amour propre n'implique en aucune façon l'approbation de ces préjugés, dixit Émile Nicole. Et plus loin, il dit aussi que le prophète Ézéchiel, qui parle à propos des Babyloniens, des Assyriens, dans un chapitre très, très dur, Ézéchiel 23, il décrit à un moment donné ces peuples comme des impudiques aux membres d'âne, qui éjacule comme des chevaux. Littéralement, on peut traduire comme ça le texte. Ézéchiel 23, verset 20. Ce n'est pas traduit comme ça partout. Ils ont des pratiques sexuelles impudiques, etc. Voilà. Mais littéralement, on pourrait dire ça. Et pourtant, dans le même texte, Ézéchiel parle de ces mêmes nations comme des cavaliers jeunes et charmants. Donc, peut-être que il y a utilisation de certains préjugés, mais sans vouloir les approuver, mais pour encore plus toucher l'auditoire dans son amour propre. Le commentateur Amsler écrit: « Les Couchites sont l'un des peuples les plus lointains et les plus étrangers de l'Alliance. Le nom n'est pas péjoratif. La comparaison porte non sur les qualités ou les défauts respectifs des Couchites et des Israélites, mais sur la situation qui est la leur devant Yahvé. L'oracle affirme qu'aux yeux de Yahvé, Israël n'a pas davantage de mérite que le plus étranger des peuples de la terre, pour établir qu'Israël n'est pas plus important pour Dieu que la nation la plus distante connue, située au bout du monde connu. » Autrement dit, Israël est une nation parmi les autres. C'est Dieu qui appelle toutes les nations à l'existence, c'est à lui qu'on doit rendre compte pour l'injustice commise, qu'on soit du peuple élu ou non. Et donc Amos critiquerait, du coup, dans ce texte, une conception qui serait orgueilleuse de l'élection, une conception arrogante. Comme nous, on est le peuple élu, ben, limite, on va pas être jugé. Comme un certain Robert Martin Achard dit, cette déclaration annule le statut particulier d'Israël, soit en mettant Israël au niveau des autres nations, soit en exaltant celles-ci, en les mettant au bénéfice des mêmes privilèges qu'Israël. Donc ça pourrait même contenir une dimension aussi prophétique. Effectivement, le salut est ouvert à toutes les nations à partir de la Nouvelle Alliance. Même avant, mais on va dire que Israël avait en quelque sorte quand même un privilège, une connaissance, une révélation de Dieu que les autres nations n'ont pas eu. Dans le prophète Jérémie, deux fois, on a les Couchites. Donc le prophète Jérémie interpelle le peuple de la part de Dieu en ces termes. Jérémie 13, 23. « Un Couchite peut-il changer sa peau ? Un léopard, ses taches. » Hein, vous connaissez ce texte. Hein. « Et vous pourriez-vous faire du bien, vous qui êtes exercé à faire du mal ?» En fait, le prophète veut établir que la conduite pécheresse du peuple de Juda est tellement enracinée dans leur cœur qu'elle est inchangeable, comme la couleur de la peau qu'on ne peut pas changer, évidemment. Et dans ce texte, la couleur noire de la peau des Couchites est mentionnée, car c'est quelque chose qui est visible, qui va frapper l'œil de l'observateur. Et le noir n'est absolument pas identifié au mal, alors que dans un tel contexte, si ça avait été le cas dans la pensée de Jérémie, ça aurait été très facile de le faire, hein, dans un tel contexte, mais non, le noir n'est pas identifié au mal. Et c'est le fait de ne pas pouvoir changer la couleur de sa peau qui est comparé à la nature pécheresse du peuple qu'on ne peut pas changer soi-même. Et donc la différence physique du Couchite est d'ailleurs même notée de façon plutôt positive, voire extrêmement positive, puisque les taches du léopard, c'est ce qui en font sa beauté. Hein. Le léopard, pourquoi on le tue ? C'est pour récupérer sa peau qui est magnifique. Et c'est ces taches du léopard qui sont mises en parallèle avec la peau noire des Couchites. Hein. Un Couchite peut-il changer sa peau ? Un léopard, ses taches. Si là on fait le parallèle, eh bien, c'est très positif, la couleur noire de la peau. Toujours dans le prophète Jérémie, chapitre 38-39, on nous parle d'un certain Ébed-Mélec, dont il est précisé qu'il est couchite et qu'il était haut fonctionnaire dans la maison du roi. Ézéchiel 38, verset 7. Le prophète Jérémie est donc jeté dans une citerne à cause de son message. On ne veut pas l'entendre parler de jugement sur le peuple de Dieu. Ce message déplaît au roi, déplaît à toute la population. Et c'est Ébed-Mélec, le couchite, qui va faire preuve d'humanité à l'égard du prophète Jérémie, puisqu'il plaide en la cause de Jérémie devant le roi. Il dit « Ô mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en tout ce qu'ils ont fait à Jérémie. » Alors d'un point de vue théologique, c'est intéressant, au moment où le peuple élu rejette Dieu et rejette les messagers que Dieu lui envoie, au point d'ailleurs de persécuter Jérémie, c'est à ce moment-là que un noir agit pour sauver le prophète Jérémie. Dieu en sera reconnaissant à ce Cushite, puisqu'il donne cet ordre à Jérémie: « Va, parle à Ebed-Mélec, le Cushite, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, je fais venir sur cette ville ce que j'ai prononcé, non pas pour son bonheur, mais pour son malheur, cela arrivera en ce jour-là devant toi. Mais en ce jour-là, je te délivrerai, déclaration du Seigneur, et tu ne seras pas livré aux hommes qui t'effraient. Je te ferai échapper au jugement, et tu ne tomberas pas par l'épée, ta vie sera ton butin, parce que tu as mis ta confiance en moi, déclaration du Seigneur. » Donc, protection particulière sur cet homme qui a sauvé Jérémie et plaidé en sa faveur. Et enfin, on va finir ce survol biblique avec un texte, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, texte très connu, Acte 8, versets 26 à 39. On va prendre le temps de le lire. Connaissez ce texte. Acte 8, versets 26 à 39. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant: « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit: « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit: « Comment le pourrais-je, si personne ne me l'explique ?» et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: « Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération, qui en parlera ? Et en effet, sa vie a été supprimée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe: « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela ? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit: « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Puis ensuite, il y a un verset qui n'est pas dans tous les manuscrits. Philippe dit: « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit: « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Voilà. Ce texte rapporte donc la conversion d'un Éthiopien, probablement un Cushite, conversion à Jésus-Christ. Le premier païen converti au christianisme, souvent on dit que c'est Corneille, hein, mais c'est plutôt l'eunuque éthiopien. Pourquoi on ne le présente pas comme un païen ? C'est parce qu'il avait déjà, il était prosélyte, il pratiquait déjà le judaïsme. Mais quand même, il n'est pas juif, il est païen, converti au judaïsme avant de se convertir à Jésus-Christ. C'est pas le Romain Corneille, hein, le premier païen converti. Moi, j'ai toujours dit, hein, le premier païen converti, c'est Corneille et tout. Non, voilà. Et ce texte doit probablement être lu comme un accomplissement des textes de l'Ancien Testament qui prophétisent que les Cushites se tourneront vers le Seigneur. Et on peut citer, par exemple, Psaume 68, 32, « Des objets de bronze viennent de l'Égypte, couche à court, les mains tendues vers Dieu. » Ou encore Sophonie 3, versets 9 et 10. « Alors je rendrai purs les lèvres des peuples pour qu'ils invoquent tous le nom du Seigneur en le servant dans un même effort. D'au-delà des fleuves de Cush, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront l'offrande. » Donc assez, disons moi, je trouve que c'est assez clair. Ce texte du Nouveau Testament aussi est un accomplissement de ce salut qui s'ouvre et toutes ces gens qui viennent, même de Cush et même des nations encore plus loin. conclusion, au regard de ce survol-là, les Couchites sont dans la Bible un peuple majestueux qui se distingue des autres peuples connus par la couleur de sa peau, qui habite dans une région certes reculée du monde connu de cette époque, des Israélites. Ils ont une réputation sérieuse de grands athlètes, de guerriers redoutables, puisqu'ils servaient dans de nombreuses armées, y compris l'armée judéenne, comme on l'a vu en 2 Samuel 18. Les écrivains bibliques relèvent certaines particularités physiques des Couchites, mais pas souvent. La noirceur de leur peau en particulier, et sans jamais en faire d'exploitation négative. Et même on peut penser que Dieu intervient avec fermeté lorsque Myriam et Aaron, si on accepte cette hypothèse de lecture, ont des pensées racistes. Jamais on ne signale une infériorité des Couchites, jamais on établit de corrélation entre des particularités physiques et des traits de comportement, parce que ça c'est aussi propre au racisme, parce que tu as une certaine couleur, alors tu vas avoir tel type de comportement. Jamais on voit ça dans la Bible. La Bible hébraïque met en valeur l'attitude d'un Couchite qui a mis sa confiance en Yahvé à un moment où tout le peuple élu reniait Dieu, en quelque sorte, était infidèle. La Bible accorde peu d'importance aux différences physiques et elle promet un temps où les Couchites seront visités et serviront le Dieu vivant. Et la conversion de l'eunuque éthiopien suggère que ce temps est accompli. On est dans ce temps. Ça constitue au moins un début d'accomplissement de cette promesse. Et j'en conclus que c'est à tort que l'on s'est servi de la Bible pour justifier l'idéologie raciste. Si vous trouvez un autre texte qui vous semble raciste, venez me le dire. J'ai essayé d'en sélectionner le maximum et ceux qui ont été utilisés dans l'histoire pour appuyer les choses. C'est à tort qu'on s'est servi de la Bible pour justifier l'idéologie raciste. Et ça, c'est important de le soutenir aujourd'hui. Dans l'Apocalypse de Jean, il nous assure que devant le trône, il a vu des gens de toute une foule nombreuse, avec des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et cette réalité-là, en tant qu'Église, on est déjà appelé à la vivre aujourd'hui. Et voilà, je m'arrête là pour ce parcours. Je vois qu'on a encore 10 minutes. Si on veut avoir un temps d'échange, on peut le prendre maintenant.